C'est quoi le handicap ?
Un handicap est-il toujours visible ?
Les personnes handicapées sont toujours sur fauteuil roulant ?
Et avoir des lunettes, c'est handicapant ?
Le diabète, c'est un handicap ?
Être autiste, qu'est-ce que ça veut dire ?
Les personnes handicapées sont-elles si différentes de nous ?
Je m'appelle Arthur, j'ai 11 ans, je suis drôle et heureux.
Je m'appelle Jean-Noël, j'ai 12 ans et je suis amoureux et joyeux.
Je m'appelle Aaron, j'ai 9 ans, je suis ouvert et joyeux.
Je m'appelle Léna, j'ai 9 ans et je suis heureuse et féminine.
Je m'appelle Mathis, j'ai 13 ans et je suis joyeux et mélomane.
Je m'appelle Maëlys, j'ai 14 ans, je suis gentille et joyeuse.
Je m'appelle Flavie, j'ai 10 ans, je suis joyeuse et enchantée.
Je m'appelle Anaïs, j'ai 10 ans et je suis heureuse et sociable.
Je m'appelle Hugo, j'ai 10 ans et je suis heureux et imaginatif.
Nous sommes des enfants et des ados du centre social de Chalamont.
Le thème de notre émission, le handicap.
Au sommaire de notre émission,
un micro-trottoir dans les rues de Chalamont.
Les droits de l'enfant handicapé.
Les handicaps du quotidien, parce que tout le monde peut s'en trouver.
L'interview de Franck, il est diabétique.
L'interview de Émilie Buchet, elle travaille auprès de jeunes autistes.
Et l'interview de Virginie, elle est en fauteuil roulant depuis 5 ans.
Vous écoutez Radio B sur 90 FM.
Pour vous, qu'est-ce que le handicap ?
Le handicap, c'est pas forcément ce qu'on peut imaginer.
On va dire une difficulté dans la vie de tous les jours.
Pour vous, qu'est-ce que le handicap ?
Eh bien, c'est une personne qui... je sais pas comment dire ça, moi. J'en sais rien.
Qu'est-ce que le handicap ? Très bonne question.
Eh bien, c'est avoir un problème de santé physique ou mentale.
Bah, des personnes qui peuvent pas utiliser, par exemple, leurs jambes ou leurs bras.
Mais l'handicap, c'est une diversité, on dit en français. C'est une diversité.
Est-ce que, selon vous, les handicaps sont forcément visibles ?
Pas du tout. Exemple, l'autisme n'est pas... c'est pas marqué au milieu de sa figure qu'il a un handicap et qu'il est autiste.
Non, pas forcément. Quand on dit les handicapés, on pense souvent aux gens en fauteuil roulant. Il y a beaucoup de handicaps mentaux chez des personnes qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas si on ne les connaît pas.
Est-ce que, selon vous, les handicaps sont forcément visibles ?
Pas tout le temps, hein. Tout dépend le handicap que c'est, hein.
Non, il y en a qu'on ne voit pas.
Ah non, surtout pas.
Quelqu'un qui est aveugle, tu le vois parce qu'il a une canne blanche, mais quelqu'un qui est sourd, ça ne se voit pas.
Pensez-vous que les personnes handicapées sont si différentes ?
Non, tout le monde a de grands potentiels, grandes qualités et des défauts aussi, comme tout le monde.
Elles sont handicapées, oui, mais pourquoi qu'elles seraient différentes ? Bien sûr, non, moi j'appelle pas ça une différence, hein. Non, elles sont comme tout le monde, hein. C'est tout.
Pensez-vous que les personnes handicapées sont si différentes des autres ?
C'est plus compliqué. Il faut les traiter pas différemment, parce qu'elles sont toujours des personnes comme nous. Mais vu qu'elles sont des handicaps, il faut être plus sensible.
Oui, elles sont différentes, mais il faut les intégrer au milieu de tous les gens qui pensent être normaux, entre guillemets.
Vous sentez-vous gêné quand vous êtes en présence d'une personne handicapée ?
Pas du tout, je la considère comme tout à chacun.
Disons que je me sens mal à l'aise d'un point de vue empathique, en fait.
Non ? Pourquoi qu'on se sentirait gêné ? Ben non, hein, c'est comme ça. Hein. Ça dépend de l'handicap, moi je dis pour moi.
Vous sentez-vous gêné quand vous êtes en présence d'une personne handicapée ?
Non, pas du tout. Mais c'est vrai que je fais un peu plus attention à la personne handicapée.
Je ne suis pas gêné dans le sens où moi ça ne me gêne pas que la personne soit handicapée. Ce qui me gêne, c'est que je ne sais pas comment l'appréhender.
Vous sentez-vous gêné quand vous êtes en présence d'une personne handicapée ?
Ah non, je ne me sens pas gêné, non. J'essaye de l'aider si je peux. Hein, mais il faut que je vois son handicap aussi.
Avez-vous un handicap ?
Je vais partir du principe que non.
Non, j'ai pas d'handicap particulier.
Non, bah jusqu'à présent non, hein, mais ça peut venir. Hein.
Avez-vous un handicap ?
Des fois, les personnes qui ne savent pas bien lire, il y en a d'autres qui ne savent pas bien s'exprimer, c'est tous des handicaps, ça.
On a tous un handicap, non ? En exagérant, on a tous un handicap, parce qu'on peut aller sur des tout petits handicaps de rien du tout, c'est-à-dire de la timidité ou des choses comme ça. On a toujours des choses où on est moins à l'aise que d'autres choses qu'on fait dans la vie.
Ça dépend des jours.
On a beau dire, on a beau faire, le handicap quand il se voit te suit de l'ombre à la lumière, mais disparaît quand c'est de l'arme à ta main bleue.
Vous écoutez Radio B sur 90 FM.
Je suis Aaron, j'ai 3-10, dyslexique, dysorthographique et dysgraphique.
C'est quoi être dyslexique ?
Dyslexique, c'est que j'ai des problèmes de concentration, je crois, mais je suis pas sûre. Que je confonds par exemple le T avec le D, le A avec le E, le M avec le N.
C'est quoi être dysorthographique ?
Dysorthographique, c'est quand t'as des problèmes d'écriture, tu fais pas bien les lettres.
Et c'est quoi être dysgraphique ?
Être dysgraphique, c'est que tu n'arrives pas très bien à lire. Tu fais des fautes dans tes mots.
Est-ce que c'est handicapant ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce que tu as besoin d'aide quand tu es à des 10. J'ai un AVS et un orthophoniste.
C'est quoi une AVS ?
J'ai quelqu'un qui t'aide pour travailler.
Est-ce que ça te complexe ?
Oui. Non, pas trop. Okay. Si, un peu, mais pas trop.
Est-ce que les gens se moquent de toi ?
Non.
Bien, merci.
Merci.
Le statut social, c'est d'avoir de l'argent ou pas. Ça peut être handicapant dans la vie de tous les jours.
Est-ce que tu connais quelqu'un qui a un statut social qui met cette personne en difficulté ?
J'ai une amie qui n'a jamais pris l'avion et n'est jamais partie en vacances. Je trouve que j'ai de la chance. Et toi, qu'en penses-tu ?
Moi, je pense que les statuts sociaux sont handicapants pour les gens qui n'ont pas d'argent, qui ne peuvent pas partir en vacances.
Merci.
Alors Hugo, as-tu des traits de caractère plus importants que les autres ?
Oui, le stress et l'angoisse.
Donc tu es quelqu'un de très stressé au quotidien. Est-ce que du coup ça t'handicape dans ta vie de tous les jours ?
Oui. Souvent quand je suis à l'école, j'apprends bien mes leçons, mais je stresse, du coup j'écris n'importe quoi. Souvent quand mes parents me demandent quelque chose, j'ai peur, du coup, ça m'angoisse, ça me donne mal au ventre. Par exemple, d'aller chercher des serviettes ou d'aller poser une question à quelqu'un, ça me fait peur, j'ai pas envie. Du coup, ça m'angoisse.
As-tu des astuces pour gérer ton stress et ton angoisse au quotidien ?
Non, j'en ai pas.
Merci beaucoup, Hugo.
De rien.
Je me présente, je m'appelle Mathis, j'ai 13 ans et demi et je fais de l'apnée du sommeil.
L'apnée du sommeil, qu'est-ce que c'est ?
L'apnée du sommeil, c'est par exemple quand on se réveille plusieurs fois par nuit, qu'on respire par la bouche, des choses comme ça.
Utilises-tu une machine ?
Oui, j'en utilise une.
À quoi sert-elle ?
Ça sert à que je me réveille moins la nuit.
Est-ce qu'elle est utile pour toi ?
Oui et non, car je me réveille moins. Mais je me réveille quand même. Et normalement, je devrais respirer par le nez, mais je respire par la bouche. Donc ça m'aide pas trop, mais un peu.
Mais par exemple, quand tu voyages quelque part, est-ce que tu la prends ?
Non, je la prends pas.
Pourquoi ?
Déjà, c'est assez gros et en plus, c'est encombrant et vu que ça m'aide pas trop...
D'accord. Et tu penses que tu aurais quoi pour plus te réveiller ?
Je sais pas, on a tout essayé, on a changé de machine, changé de masque, et celle-là, pour l'instant, c'est celle qui me convient le mieux.
D'accord, merci.
Comment t'appelles-tu ?
Je m'appelle Flavie et j'ai 10 ans.
Comment as-tu vu que tu avais besoin de lunettes ?
Alors c'est mes parents, ils ont vu sur une photo que je louchais, alors ils ont dit elle a besoin de lunettes directement.
Combien de fois tu es allé chez l'ophtalmologue?
Sachant que j'y vais une fois par an, j'ai dû y aller 10 fois à peu près.
Quel genre d'exercice il te fait faire?
Ils me font cacher un œil et sans mes lunettes et faut que je dicte des lettres.
Comment fais-tu pour aller dans l'eau?
Je fais normalement, j'enlève mes lunettes et puis je vais sous l'eau, enfin, ça me gêne pas.
Est-ce que tu enlèves tes lunettes pour le sport?
Ça dépend quel genre de sport.
Pour quel genre de sport tu dois enlever tes lunettes?
La lutte, les jeux un peu dangereux, quoi, enfin...
Merci. Nous avons rencontré Franck, il est diabétique.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Oui, donc je m'appelle Franck Guillet, j'ai 35 ans et donc je suis venu pour vous parler de mon diabète.
Qu'est-ce que le diabète?
Donc le diabète, c'est le pancréas qui nous sert à fabriquer de l'insuline pour dissoudre le sucre qu'il y a dans le sang. Donc le diabète, c'est quand le pancréas ne fonctionne plus, justement, qui fabrique plus d'insuline. On est obligé de se l'injecter soi-même.
Est-ce gênant au quotidien?
Oui, c'est quand même assez gênant parce que vu qu'il faut que je le régule moi-même, donc plusieurs fois dans la journée, il faut que je le contrôle. J'ai un petit appareil sur le bras qui prend ma glycémie. Donc la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang, qu'il le prend tous les quarts d'heure, et avec un petit boîtier. Donc avec ce petit boîtier, 4-5 fois par jour, il faut que je scanne, et ça me donne mon taux de sucre que j'ai en ce moment dans le sang. Donc là, je suis à 1,76. C'est pas trop mal, la norme, normalement, c'est entre 0,90 et 1,10.
Vous faites quoi comme travail?
Je suis agriculteur. J'ai des vaches laitières et puis des céréales aussi. Donc au niveau céréales, ça, j'aime pas bien parce que dans les tracteurs, j'ai pas tendance à l'accrocher. Mais par contre, avec les animaux, c'est souvent que je l'accroche. Et une bête qui me pousse, et je bute quelque chose, ça arrive à me l'arracher, le capteur.
Est-ce que c'est reconnu comme handicap?
C'est reconnu, oui. Actuellement, je suis en train de faire les papiers auprès de la MDPH. Pour justement cet handicap. Et là, j'ai eu une réponse. C'est un handicap qui était évalué à 20%.
Est-ce douloureux?
Non, ça fait pas mal. Mais par contre, si justement on régule mal le taux, si je suis trop bas, si je suis en dessous des 0,60, en fait, on peut tomber dans le coma. Et si je suis trop haut, c'est l'inverse, je suis en hyperglycémie. À ce moment-là, ça me met des maux de tête, des vomissements. J'ai la vue qui baisse un petit peu. Donc, ça fait quand même un petit peu mal, surtout quand on est haut. Mais en règle générale, non.
Quels étaient les symptômes pour détecter que vous aviez du diabète?
J'ai découvert que j'avais du diabète en janvier. Mais l'année avant, déjà tout l'été, j'étais pas très très en forme. Et sur le mois de décembre, j'avais perdu beaucoup de poids, 10 kilos. Donc c'est à ce moment-là que je suis allé voir mon médecin qui m'a fait une prise de sang et qui se sont aperçus que j'avais énormément de sucre dans le sang. Donc les symptômes, c'est une grosse perte de poids rapidement et boire beaucoup d'eau.
À quel âge l'avez-vous eu?
Donc je l'ai eu, j'avais 33 ans à ce moment-là. Normalement, c'est une maladie qui se déclare avant, généralement autour des 18 ans. Mais moi, j'ai eu un peu de chance. J'ai gagné quelques années, en fait. Parce que c'est une maladie, en fait, on naît avec le gène. Tout le monde l'a. Et il n'y a que chez certaines personnes où il se développe, en fait. Ça peut être dû à un stress, un grand moment de fatigue, une émotion. C'est ça qui déclenche ce petit gène. Et qui détruit le pancréas après.
Peut-elle se soigner et avec quoi?
Oui, donc on peut le soigner avec... j'ai une petite pompe à insuline sur l'autre bras. Donc cet appareil, elle est réglée pour m'envoyer l'insuline que mon pancréas ne fabrique plus. Donc ça me l'envoie tous les quarts d'heure un petit peu. Et à chaque repas, j'ai une autre télécommande où, suivant l'alimentation que je mange, j'adapte une dose plus ou moins grosse d'insuline pour corriger mon taux de sucre. Par contre, je le réavise, c'est une maladie qui ne guérit pas. Parce que le pancréas, une fois qu'il est abîmé, il ne se soigne pas.
Et ce qu'elle se transmet ?
Non, c'est une maladie qui ne se transmet pas. Mais mes enfants, ils seront quand même plus sensibles que le gène se développe aussi. Donc il va falloir qu'ils fassent très attention, on va les surveiller plus que la normale.
Est-ce qu'on peut en mourir ?
Oui, si on ne se soigne pas. Si j'avais pas ma pompe ou mes injections d'insuline quotidiennement, au bout de quelques mois, on peut en mourir.
Donc vous avez un diabète de type 1 ?
Oui.
Quelle est la différence entre un diabète de type 1 et de type 2 ?
Donc le diabète de type 1, c'est le pancréas qui ne fonctionne plus. Et le diabète de type 2, c'est un pancréas qui est un peu rouillé en fait. On prend uniquement des cachets pour le diabète de type 2, pour le stimuler un petit peu et pour qu'il fasse un peu plus d'insuline que la normale. Donc il se guérit comme ça, parce que généralement les types 2, ils arrivent à en guérir s'ils font un bon équilibre alimentaire et qu'ils prennent bien leurs cachets, ça passe généralement.
Avez-vous besoin d'une aide ?
Oui et non. Au niveau du travail, c'est vrai que je ne fais plus le même travail qu'avant. J'ai perdu beaucoup en endurance, donc je me fatigue très vite. Quand je sens que j'ai plus assez de sucre, que je suis trop bas, je fais des petites pauses de 20 minutes pour me restabiliser en sucre. Et s'il y a besoin, je rebois quelque chose d'assez sucré pour remonter à un taux où je me sens bien. Et puis, j'ai un suivi qui est quand même en plusieurs fois dans l'année. Tous les 3 mois, j'ai une infirmière qui vient, qui regarde toute l'évolution des 3 mois. Si j'étais pas trop haut, trop bas, ils font une moyenne. Après, suivant cette moyenne, ils rajustent un peu mes doses d'insuline par rapport à ma pompe. Et plusieurs fois dans l'année, je vais aussi chez mon endocrinologue qui me suit. C'est le médecin spécialisé à l'hôpital pour le diabète. Pareil, qui fait le point sur toutes mes glycémies de l'année. Et puis j'ai une visite pour les yeux aussi tous les ans. Parce que le diabète, quand on est assez haut, ça abîme la vue. Donc il faut contrôler tous les ans sa vue pour voir si elle ne baisse pas.
Et au tout début, quand vous avez su que vous aviez le diabète et que vous avez eu les appareils, par exemple, pour ne pas avoir beaucoup de sucre, c'était difficile ou pas pour savoir comment faire ?
Au début, c'est très très compliqué. Je suis allé à l'hôpital, je suis resté 10 jours. Donc pendant les 10 jours, ils m'ont appris à me servir des appareils, de m'expliquer ce qui était la maladie, parce que j'avais jamais entendu parler de cette maladie. Et donc, il faut bien les 10 jours d'hospitalisation pour bien comprendre et bien réussir à savoir à quoi l'insuline sert et adapter ses doses. C'est surtout adapter les doses qui est très dur.
Vos petits trucs là sur les bras, est-ce que vous pouvez, par exemple, quand vous allez à la mer, vous devez les enlever, vous pouvez vous baigner avec
Non, je les enlève pas. La petite pompe à insuline, je la change tous les 3 jours. Et par contre, l'autre petit capteur, celui qui fait la glycémie, quand je le mets, il faut que je le garde 15 jours. Mais ça, pour aller dans l'eau, ça gêne pas, on peut y aller. Au début, ça nous gêne un petit peu, mais après, on fait même plus attention qu'on a les deux appareils. Récemment, on est allé à la piscine. Moi, j'ai pas fait plus attention. C'est vrai que je m'en suis aperçu, parce que tout le monde me regardait. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et après, j'ai dit, oui, c'est vrai que j'ai mes deux appareils, donc ils vont se poser la question.
Est-ce que quand t'es à la piscine ou à la mer, tu te sens gêné que tous les gens te regardent ?
Au début, ça me gênait un petit peu, oui, je faisais attention, je gardais mon t-shirt avec des manches un peu longues, et maintenant, non, ça me gêne plus du tout.
Mais vos appareils, quand vous les enlevez, il y a votre peau ou il y a un trou, ou c'est un trou ?
C'est des appareils qui collent, et il y a une petite aiguille au milieu de l'appareil qui est plantée dans ma peau. Mais elle est très petite, elle fait un demi centimètre et elle est souple. Donc ça veut dire que même quand j'appuie dessus ou que je le bouge, l'aiguille bouge en même temps. Donc je le sens pas en fait. Je le sens juste quand je l'installe, ça me fait un petit picotement, mais après je le sens plus.
Merci.
Eh ben je vous remercie aussi. J'espère que vous avez compris à peu près ce que c'est le diabète de type 1. Eh ben merci et au revoir.
Merci encore à Franck d'être venu nous rencontrer.
Un sens en moins, c'est des super pouvoirs en plus.
Émilie Bûcher est venue elle aussi au centre social de Chalamont. Elle nous a parlé de son métier auprès d'enfants et d'adolescents autistes.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter ?
Alors, donc, je m'appelle Émilie, je suis monitrice éducatrice et je travaille dans un IME, un institut médico-éducatif, avec des enfants autistes et psychotiques qui ont de 8 ans à 20 ans.
Qu'est-ce qu'un IME ?
Alors un IME, c'est un institut médico-éducatif. C'est comme une école, mais c'est pour les enfants qui sont en situation de handicap.
Qu'est-ce que l'autisme ?
Alors l'autisme, c'est très compliqué à définir. Alors en général, les autistes, il n'y a pas vraiment de grande définition. Alors la définition, c'est le trouble envahissant du développement qui affecte les fonctions cérébrales. Donc en général, les enfants qui sont porteurs d'autisme, ils n'ont pas forcément la parole. Ils n'ont pas forcément la propreté, ils n'ont pas forcément l'acquisition de la marche. Donc, ils peuvent commencer à marcher à partir de 2 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être même plus tard. Voilà, donc c'est le développement est ralenti.
Est-ce qu'il y a des cas plus compliqués que d'autres ?
Alors oui, compliqués, oui. Les enfants qui sont porteurs d'autisme et qui n'ont pas de moyen de communiquer parce qu'ils n'ont pas la parole... Quand ils ont mal quelque part ou quand ils veulent quelque chose, leur seule façon de nous communiquer, ben, parfois, c'est de nous frapper dessus. Donc, pour dire ben, « j'ai mal au ventre eh », ben, ils vont taper, ils vont pincer, ils vont mordre. C'est leur seule façon de s'exprimer. Donc, comme ils n'ont pas la parole, eh ben, ils servent de ce qu'ils ont avec eux, donc leurs mains, leurs pieds, leurs dents. Donc, parfois, ça peut être très compliqué, oui.
Est-ce que c'est douloureux d'être autiste ?
Alors ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Est-ce que c'est douloureux de ne pas être autiste ? Je ne sais pas. Ils vivent dans leur monde, ils ont une bulle. Après, douloureux, je ne pense pas. Ils ne perçoivent pas le monde comme nous, c'est tout.
Ils savent qu'ils ne sont pas comme les autres ? Ou ils ne s'en rendent pas compte ? Ils pensent qu'ils sont comme tout le monde alors qu'ils sont autistes ? Ils le savent ou ils le comprennent ?
Je n'aurais pas la réponse, je ne pense pas. Je pense que eux se disent peut-être que c'est nous les handicapés. Parce qu'ils sont dans leur monde et ils vivent comme ça. Alors, si vous êtes vraiment curieux, il y a un autiste, alors on dit un autiste Asperger. Asperger, ça veut dire que c'est des autistes très intelligents, qui s'appelle Joseph Chovanec. Il est autiste, il est adulte, il parle, et il parle justement de son monde d'autiste, et avec des mots assez simples pour des enfants. Et il y a une interview assez sympa qui explique qui est autiste et qui ne l'est pas. En fait, lui, il dit que... C'est peut-être nous qui sommes autistes et pas lui. On ne sait pas finalement.
Est-ce que ça se soigne ? Si oui, par quels moyens ?
Alors, non. L'autisme, ça ne se soigne pas. Par contre, on peut apprendre à vivre avec et faire en sorte de mieux comprendre. Et on peut aider les personnes avec autisme à communiquer avec des outils particuliers.
Est-ce qu'on peut en mourir ?
Non, on ne meurt pas de l'autisme. Et ce n'est pas contagieux non plus. Nos enfants, en général, ils aiment bien aller vers les enfants, entre guillemets, classiques, vers vous. Mais ils viennent pour vous prendre par la main parce qu'ils sont contents de voir des enfants qui bougent, qui parlent. Donc c'est souvent que vous êtes abordés dans la rue, dans les parcs, dans les magasins, par des personnes en situation de handicap parce qu'ils sont contents de voir quelqu'un un peu différent. Et eux, contrairement à nous, ils n'ont pas peur. Donc ils viennent, ils vous prennent par la main. C'est pas pour autant qu'ils vont vous faire du mal.
Est-ce de naissance ?
Alors ça... La science est encore un petit peu en retard. on ne sait pas trop encore comment on est autiste.
Est-ce que toutes les personnes autistes vivent dans un centre ou peuvent être autonomes?
Alors, ça dépend du degré d'autisme. Il y a des personnes avec autisme qui ont un degré très lourd, donc ils sont obligés d'être en institution pour pouvoir les aider. Mais il y a aussi des autistes, comme je vous disais tout à l'heure, Asperger, qui vivent seuls, qui ont un travail, qui ont le permis de conduire. Et si on ne le sait pas, eh ben, on ne le sait pas qu'ils sont autistes.
Quels sont leurs points forts et leurs points faibles?
Alors, les points forts et les points faibles, ça, c'est propre à chaque personne. Vous savez, quand on vous enlève un sens, la vue ou l'ouïe, eh ben forcément, on va décupler autre chose. Si on vous rend aveugle pendant une heure, vous allez beaucoup plus écouter et toucher les choses. Les personnes avec autisme, c'est un petit peu pareil. Vu qu'elles sont privées de certains sens, elles en décuplent d'autres. Donc, c'est propre à chacun. Il y en a qui... par exemple, à mon travail, il y a un petit garçon qui parle, qui est propre, et qui a la capacité, quand on lui donne une date de naissance, enfin une date, en 2 minutes, il nous trouve le jour. Donc si on lui dit quel jour c'était le 19 mai 1945, eh ben, il réfléchit et nous dit bah, c'était un vendredi. Et si on lui dit le 1er juillet 2023, ça sera quel jour? Il réfléchit, nous dit ça sera un mercredi. Voilà. Je ne sais pas comment il fait, mais il le fait.
Est-ce que c'est forcément vrai?
Oui, on a vérifié parce que ça nous amuse un petit peu quand même. Donc oui, c'est vrai, ouais. À chaque fois, il se trompe jamais.
Moi, j'ai déjà regardé une vidéo. C'était un autiste, il écoutait une musique et il arrivait à la rejouer au piano directement.
C'est ça, ils sont très très forts. Ils ont toujours, enfin c'est très souvent que les autistes, ils ont une capacité exceptionnelle. Mais il faut la trouver, c'est pas forcément inné, ça vient pas tout de suite, et des fois on le découvre par hasard.
Par exemple, ceux dans le centre, ils vont à l'école ou...
Non. En fait, dans notre centre, on a une institutrice qui vient et qui leur donne des cours, mais c'est pas comme vous, ils restent pas une journée entière dans l'école. Leur temps de concentration, il est très très limité, ça peut être un quart d'heure, ça peut être 20 minutes. Donc l'institutrice, elle fait en fonction de chaque enfant. Et si c'est 20 minutes d'école par semaine, bah c'est que 20 minutes, mais c'est déjà 20 minutes.
Est-ce qu'ils auront un métier un jour, les autistes qui font que 20 minutes d'école par semaine?
En général, non. Les autistes Asperger, oui, il y en a qui ont des métiers. Il y a même des personnes qui travaillent aujourd'hui qui ne savent même pas qu'elles sont autistes.
Est-ce que les autistes, ils arrivent à se faire des amis autistes pareil?
C'est très rare. En général, ils sont vraiment dans leur bulle. C'est compliqué à expliquer, mais... Tu prends une grosse bulle, tu t'enfermes dedans, et voilà, c'est ta bulle, c'est ton monde. Il n'y a pas d'interaction. En fait, ils n'ont pas d'intérêt à aller vers les gens.
Les autistes, quand vous leur parlez, est-ce qu'ils vous écoutent ou même quand ils sont dans leur bulle, ils arrivent à sortir pour vous écouter ou non?
Alors, ça dépend. Des fois, on a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas et en fait, ils ont très bien entendu. En fait, les autistes, ils ne regardent pas dans les yeux. Ils fuient toujours le regard. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne nous ont pas entendus. Alors des fois ils nous entendent, des fois ils nous entendent pas.
Est-ce qu'il y en a qui parlent le langage des signes?
Oui. Alors il y a le langage des signes. Alors on dit pas le langage, on dit la langue des signes, parce que c'est une langue. Et le macaton. Macaton, c'est comme la langue des signes, mais c'est des signes plus faciles.
Est-ce que c'est vrai aussi que souvent les autistes, quand ils disent bonjour, merci, enfin les signes de politesse, c'est une perte de temps pour eux?
Oui, parce qu'en fait, un autiste... Par exemple, alors c'est Joseph Chovanec qui dit ça, c'est pas moi. Il dit que lui, en tant qu'autiste, en fait, nous, quand on pose une question, par exemple, on met une intonation avec le point d'interrogation. Est-ce que tu vas bien? Et nous, on sait que c'est une question. Eux, les autistes, ils n'entendent pas ça. Pour eux, c'est une phrase lisse. Donc, ils ne savent pas que c'est une question.
Vous, qu'est-ce que ça vous apporte?
Alors, nous, on apprend la patience. Parce que une chose très simple va mettre peut-être 1 an, 2 ans à être fait par rapport à des enfants classiques. Donc, on apprend à être patient et à écouter tous les langages du corps. Et puis, être patient parce qu'il faut répéter. Et ce qui a été acquis aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans 3 jours, ça sera vraiment acquis.
Est-ce que des fois, ils vous blessent?
Tu vois, là, les marques que j'ai sur moi, c'est un enfant qui avait mal au ventre. Là, la griffure, c'est un enfant qui ne voulait pas aller dans sa chambre. Donc, oui, ça arrive.
Ouais. Est-ce que quand il y a des enfants, par exemple, qui vous frappent, et est-ce que vous les isolez?
Alors, d'abord, on essaye de comprendre pourquoi ils nous frappent, parce que les autistes ne sont pas des personnes méchantes. S'ils frappent, c'est qu'ils n'arrivent pas à nous dire quelque chose. Donc on essaye de comprendre. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce que tu veux quelque chose de particulier? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es content? Donc d'abord, on essaye de décrypter leur gestes. Et si vraiment c'est violent, dans ce cas-là, on les isole parce que plein de choses peuvent stimuler les personnes avec autisme. Tu vois, par exemple, ces lumières, les néons, c'est quelque chose de très violent pour les autistes. Donc ça peut être quelque chose d'agressif pour eux. Et du coup, la personne avec autisme qui va être dans cette pièce, elle va peut-être se mordre, elle va peut-être se cacher, elle va peut-être taper sur la table, elle va vouloir absolument partir parce que c'est trop violent ça pour eux. Donc dans ces cas-là, on les isole dans une pièce où il n'y a pas beaucoup de stimuli. Donc rien sur les murs, pas des lumières agressives pour qu'ils puissent redescendre et souffler un petit peu.
Et est-ce que, par exemple, vous faites des sorties avec les autistes?
Bien sûr. Le but, c'est vraiment de les sortir parce que c'est pas des bêtes de foire, c'est pas des monstres, c'est des enfants qui sont juste privés de parole ou de marche ou de propreté. Donc oui, on va au parc des oiseaux, on va au parc de la Tête d'Or, on va faire des courses, on sort. S'ils sont capables de sortir parce que... Un magasin, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de rayons. Et ça fait, pour eux, ça leur fait mal aux yeux. Enfin, voilà, ça leur fait du mal. Donc, s'ils sont capables de gérer ça, on les emmène. S'ils ne sont pas capables, on va plus dans des parcs nature. Mais oui, on sort.
Est-ce que ce métier, il vous plaît?
Ah oui, aujourd'hui, oui, je ne changerai pas de métier. Parce qu'on en apprend tous les jours.
Merci.
Merci,
au revoir.
Merci à vous.
Merci Émilie pour toutes vos réponses et cet échange.
Je ne suis pas une martienne, je connais toutes les planètes, même si je ne les visite que dans ma tête.
Vous écoutez une émission d'enfants et d'adolescents du Centre social de Chalamont.
Droit de l'enfant handicapé.
1. Si tu es handicapé, mentalement ou physiquement, tu as le droit de mener une vie décente, la meilleure possible, dans la dignité, pour parvenir à un maximum d'autonomie, faire le maximum de choses tout seul. Tu dois pouvoir participer à la vie de la collectivité, par exemple, des déplacements sans problème, si tu es en fauteuil roulant.
2. Les États doivent te reconnaître ainsi, car tous les enfants handicapés ont le droit de bénéficier de soins spéciaux. Si nécessaire, une aide supplémentaire sera accordée à des parents ou aux personnes qui te gardent.
3. Cette aide sera si nécessaire, gratuite, afin de t'assurer le droit à l'éducation, à la formation, à la santé, à la rééducation, à l'emploi, aux loisirs, à l'intégration sociale, ne pas rester isolé, ainsi qu'à l'épanouissement personnel, être mieux mentalement.
4. Les États échangeront toutes les informations utiles pour aider les enfants handicapés. Les pays en développement, les plus pauvres, seront particulièrement aidés.
Vous écoutez Radio B sur 90 FM.
Virginie nous a donné rendez-vous sur Skype. Elle est en fauteuil roulant suite à un accident d'équitation.
Pouvez-vous vous me présenter ?
Je m'appelle Virginie Glasman, j'ai 32 ans. Au niveau du handicap, je suis en fauteuil roulant depuis 5 années bientôt, après un accident de sport. J'habite pas très loin de Chalamont, voilà.
Est-ce handicapant d'être sur fauteuil roulant ?
Alors oui, c'est un peu handicapant parce qu'on ne peut pas fonctionner comme quelqu'un qui n'est pas en fauteuil roulant, quelqu'un qui marche, on ne peut pas tout à fait faire les mêmes choses, mais on peut toujours trouver des astuces qui nous permettent de faire le plus de choses possibles comme quelqu'un de normal, on va dire.
Comment est-ce arrivé ?
Alors, en fait, il y a 5 ans, j'ai eu un accident d'équitation. Je montais beaucoup à cheval et j'ai eu un accident de sport lors d'une compétition.
Avez-vous du matériel spécialisé dans votre logement ?
Alors, bah, déjà, j'ai mon fauteuil roulant hein, qui est tout le temps avec moi, forcément. Et après, au niveau du matériel à la maison, j'ai un siège qui va dans ma baignoire. J'ai des petites planches au niveau de la porte d'entrée qui me permettent de mieux rentrer dans la maison. J'ai un lit dont le dossier se lève pour me redresser dans mon lit. Et après, les autres équipements, bah, par exemple, j'ai une voiture qui est adaptée. Comme je ne peux pas me servir de mes jambes, j'ai une voiture qui est adaptée au volant qui me permet de conduire.
En fait, vos jambes, elles sont coupées ou alors elles sont juste paralysées ?
Alors, en fait, elles ne sont pas coupées. J'ai vraiment toutes mes jambes. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le dos, on a comme un fil électrique qui fait fonctionner nos jambes, nos bras, tous nos organes. Et moi, ce fil électrique dans mon dos, il a été coupé dans mon accident de cheval. Et du coup, le bas de mon corps ne fonctionne plus. C'est-à-dire que je ne peux plus faire bouger mes jambes, mais mon corps est toujours là. Il fonctionne, il y a toujours le sang qui coule dans les veines, etc. J'ai un aspect, on va dire, normal, mais ça ne fonctionne plus. Quand je touche, par exemple, mes jambes, je ne sens pas le toucher. Je ne sais pas si on me touche la jambe ou pas, si c'est chaud, si c'est froid, ça, je ne sens plus.
En fait, c'est comme si vous n'avez plus de nerfs pour les jambes.
Il y a les nerfs, mais ce n'est pas relié au cerveau. Et en fait, c'est le cerveau qui commande tout. C'est-à-dire que là, même si je me brûle, eh ben, ça ne remonte pas jusqu'à mon cerveau pour me dire « aïe, je me brûle ». Donc, je ne suis pas informée de ce qui se passe sur le bas de mon corps. Ça remonte pas, j'ai pas les sensations.
Est-ce que si par exemple il y a quelqu'un qui vous prend la jambe et qui vous la met horizontale, ça vous fait mal ?
Non, ça me fait pas mal, je vais pas sentir. Ça peut arriver par exemple que si je suis dans mon lit et que ma jambe elle tombe sur le côté du lit, ben, je ne sais même pas qu'elle est tombée en fait. Comme je la sens pas, je sens pas si elle est horizontale ou pliée ou sur le côté ou tombée du lit, ça je sais pas. Il faut que je regarde, c'est mes yeux en fait qui me disent tout ça.
Depuis que vous êtes en fauteuil roulant, est-ce qu'il y a des choses que vous dites que vous ne pouvez plus faire ou est-ce que vous considérez comme tout étant possible mais différemment ?
Alors au début, il y a des choses qu'on a envie de faire et qu'on ne peut plus faire. Ça peut être des choses toutes simples comme par exemple, eh bien, moi si je vais à la plage, je ne peux plus m'amuser à glisser mes pieds dans le sable et à sentir le sable. Je ne peux plus marcher dans l'herbe et sentir l'herbe. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais après, on apprend à faire d'autres choses différemment et surtout à se passer de ces choses-là dont on a parfois encore envie. Mais avec le temps, finalement, comme on ne les fait plus, on n'en a plus spécialement envie et on fait tellement d'autres choses que c'est pas spécialement gênant, c'est pas des envies qu'on conserve et qui perdurent et où je me sens mal avec ça. Je fais plein d'autres choses qui font que je ne suis pas frustrée par ça.
Avez-vous essayé des sports comme le basket où on est sur des fauteuils roulants ? Est-ce que vous essayez de reprendre le sport ?
Alors, j'ai pas essayé le basket, j'ai essayé le rugby. C'est du rugby qu'on fait en fauteuil. Et je me balade pas mal avec mon fauteuil, je roule pas mal, mais j'ai pas essayé beaucoup de sports hormis le rugby fauteuil.
Est-ce qu'il y a des fauteuils qui se cassent ?
Est-ce que les fauteuils se cassent ? Bah moi ça fait 5 ans que j'ai mon fauteuil, il est pas encore cassé, mais c'est comme un vélo, il faut changer les pneus, ça arrive que parfois on crève, ça demande quand même un entretien puisqu'on l'utilise tous les jours. Il faut quand même l'entretenir, il faut parfois changer des pièces, des vis, gonfler les pneus, changer les pneus, changer les roues, voilà, il faut quand même l'entretenir.
Pour votre fauteuil roulant, je sais qu'il existe plusieurs sortes. J'ai déjà vu une personne qui était dans un fauteuil roulant électrique. C'est-à-dire qu'il avait juste une manette.
Alors moi, c'est pas un fauteuil électrique, c'est juste un fauteuil manuel, c'est-à-dire que je me déplace qu'à la force de mes bras. Mais il y a plusieurs types de fauteuils roulants, effectivement. Il y en a des électriques, où la personne dirige comme une petite manette pour aller à droite, à gauche, tout droit, etc. Il peut aller à plusieurs vitesses. Et moi, ma vitesse, bah, c'est mes bras. Donc c'est assez physique. C'est mes bras qui me permettent d'avancer, etc. Et de faire tous les déplacements.
Comment vous faites quand vous allez chez quelqu'un et que l'ascenseur il est en panne et qu'il habite en appartement ?
Eh bien, alors, si on est plusieurs copains et qu'il habite par exemple au premier étage, eh bien, les copains peuvent me porter avec mon fauteuil. Et puis sinon, eh ben, le copain doit descendre et on se voit en bas, parce que je ne peux pas monter, effectivement.
Est-ce que vous avez déjà essayé de marcher à l'hôpital ?
Alors, en fait, on peut... dans mon cas, si vous voulez, je peux penser très fort à vouloir faire marcher mes jambes, mais ça ne marche pas, ça... Je peux pas, en fait, je peux pas essayer parce que ça fonctionne pas. J'ai beau y penser très très fort, mais c'est vraiment déconnecté, on va dire. C'est comme si vous preniez une lampe électrique, enfin une lampe, et que le fil qui rejoint la prise électrique, vous le coupiez. Vous avez beau appuyer sur l'interrupteur, elle va pas s'allumer. C'est exactement la même chose.
Comment ça s'est passé quand vous êtes tombé ? Comment pour que vos jambes, elles fonctionnent plus ?
En fait, je suis tombée de mon cheval. Alors, c'est pas les jambes qui fonctionnent plus, c'est dans le dos. On a dans la colonne vertébrale. En fait, je me suis cassée deux vertèbres. Et quand j'ai eu la fracture, et ben des morceaux d'os sont venus couper ce tube qu'on appelle la moelle épinière, qui nous permet de faire fonctionner nos bras, nos jambes, etc. À cet endroit-là, ça s'est coupé. Du coup, tout ce qui est en dessous n'est plus contrôlé par ma tête, on va dire.
Est-ce que ça vous manque, l'équitation ?
Oui, l'équitation, ça m'a manqué. Ça a été très, très dur au début de ne plus monter à cheval, surtout que je montais depuis que j'étais toute petite. Mais si j'en avais envie, je pourrais tout à fait remonter à cheval. C'est juste que, pour l'instant, je vois toujours des chevaux, je m'y intéresse toujours, mais je n'ai pas forcément, je ne ressens plus forcément le besoin de monter à cheval, même si j'y ai très souvent pensé, mais je n'en ai pas forcément besoin. Mais je pourrais le faire. Tout est presque possible, il faut juste réfléchir à la bonne façon de le faire, mais tout est possible. J'ai d'ailleurs connu un garçon qui est dans la même situation que moi et qui là est revenu des Jeux Olympiques, Paralympiques et qui fait du ski assis. Donc vraiment tout est possible.
Et bien, en tout cas, un grand merci d'avoir pris le temps de répondre.
Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.
Merci Virginie pour ce témoignage.
Être handicapé, ça veut dire que les choses sont parfois plus difficiles, mais jamais impossibles.
Nous arrivons à la fin de notre émission.
Merci aux auditeurs pour votre écoute.
Merci à Christelle et Pauline.
Merci au Centre social de Chalamont et à Radio B pour l'atelier.
On se quitte en musique avec
Dommage de Big Flo et Oli sur Radio B.
Louis prend son bus comme tous les matins. Il croise cette même fille avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais lui, il est timide et elle est si belle. Il n'aime pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, il a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller. Il aurait dû le faire, crois-moi. On a tout dit,
assez dommage. C'est peut-être la dernière fois. Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique s'est avouée. Face à les mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier.
Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs. Soit elle a recevoir les compliments et les jets de fleurs. Mais Yasmine est rouillée, pensée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine.
Ah, elle aurait dû y aller. On a tout dit, assez dommage. C'était la dernière fois.
Elle aurait dû y aller.
Elle aurait dû le faire. Crois-moi, on a tout dit, assez dommage. assez dommage, c'était ta dernière fois. Diego est affalé au fond du canapé. Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis. Comme souvent seul, la lune viendra lui tenir compagnie. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit. Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie. Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé. C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer. Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû faire 3 mois. On a tout dit, assez dommage. Assez dommage, c'est peut-être la dernière fois.
Pauline, elle est discrète. Elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari en bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever.
Ça lui arrive de chanter, elle s'est pas relevée.
Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage. Assez dommage, c'est peut-être la dernière fois.
Au revoir.
Vous écoutez Radio B sur 90 FM.